Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, la laïcité est-elle exportable ? Il n'y a pas qu'en France qu'on s'échauffe sur la laïcité. Au Québec, l'adoption récente d'une loi qui interdit à plusieurs catégories de fonctionnaires le port de symboles religieux. Cette adoption provoque de vifs débats dans un pays connu pour son approche multiculturaliste. Ce texte sur la laïcité de l'État, dite loi 21, n'est pas du goût de tous les Canadiens qui y voient, pour certains, donc une atteinte à la liberté de conscience. Ça fait une dizaine d'années que la laïcité s'est invitée dans le débat politique québécois. Les accommodements raisonnables qui permettent à des minorités d'imposer certaines règles eu égard à leur religion font l'objet de controverses juridiques. La loi adoptée le 16 juin dernier par la majorité de centre-droit, en même temps d'ailleurs qu'un texte sur l'immigration, est censée y mettre un terme. Alors il est intéressant de voir comment cette question, si envahissante côté français, est débattue de l'autre côté de l'Atlantique, d'autant que la laïcité est réputée pour être un terme intraduisible qui ne supporterait donc pas de sortir des frontières hexagonales. Alors la laïcité est-elle exportable ? Eh bien c'est la question du jour, en compagnie de Valentine Zuber, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, spécialiste des religions et des relations internationales, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Je renvoie notamment à votre « Laïcité en France et dans le monde », publié en 2017 à la documentation photographique. Et puis, bientôt, ce sera en septembre aux éditions du Cavalier Bleu, une géopolitique des religions. Pour discuter avec vous, Philippe Reynaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de philosophie politique, professeur à l'université Paris de Panthéon Assas. Vous avez publié cette année chez Gallimard « Laïcité, histoire d'une singularité française ». Et puis, nous sommes le dernier jeudi du mois et pour la dernière fois cette année, en tout cas, en compagnie de Guillaume Goubert, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Directeur donc du journal La Croix, notre partenaire mensuel au Grain à Moudre depuis quoi, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus très bien. 3 ans.
Bonjour tout le monde. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. J'ai envie de dire, enfin, c'est un débat qui dure depuis plus de 10 ans. Il est temps qu'un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde. Notre projet de loi prévoit que les signes religieux vont maintenant être interdits pour les employés de l'État en position d'autorité.
Rien n'arrête le gouvernement qui veut adopter son projet de loi sur la laïcité.
Monsieur le Président, c'est un moment qui est attendu depuis longtemps par les Québécois.
Peut-être, mais l'opposition dit le contraire et accuse le gouvernement de limiter les droits des minorités en utilisant la disposition dérogatoire pour contourner la Charte des droits et libertés.
C'est un autre jour triste pour le Québec et en fait, c'est du jamais vu.
Les positions sont tranchées et polarisées. Les partis d'opposition s'en sont pris à la manière dont le gouvernement agit.
Ce qui arrive présentement, retirer des droits, là, c'est inacceptable, premièrement. Et deuxièmement, sous un baillon, c'est de joindre l'insulte à l'injure.
Voilà un petit mix réalisé par Peyre Legras à partir de reportages pris sur Radio-Canada. Vous aurez sans doute reconnu à l'accent l'origine de ces sons. On aura évidemment l'occasion dans le cadre de cette discussion de voir en quoi la laïcité à la québécoise est peut-être singulière par rapport à notre conception. Mais pour commencer, puisque si on a choisi de faire cette émission, c'est parce qu'il nous a paru surprenant peut-être de voir une loi sur la laïcité de l'État intervenir au Québec, donc dans cette province du Canada. Valentine Zuber, est-ce que vous trouvez-vous surprenant que nous ayons pu être surpris que l'on puisse parler de laïcité ailleurs qu'en France?
Oui, je suis évidemment tout à fait surprise puisque j'ai étudié assez longuement les laïcités, ce que j'appelle les laïcités dans le monde, et donc peut-être le terme n'est pas employé partout, mais le principe politique est une réalité, en particulier dans les États qui ont un fonctionnement démocratique et qui obéissent aux règles de l'État de droit.
On dit pourtant que c'est un terme intraduisible et qui voyage très très mal.
Alors c'est un terme qui est latin bien sûr, d'origine latine et qui se traduit très bien dans toutes les langues latines, que ce soit en espagnol, en roumain, en italien. parfois qu'il y a même un néologisme en turc, laïclique. Donc c'est un terme qui existe et qui est utilisé assez couramment. Mais c'est vrai qu'il n'a pas une traduction tout à fait évidente en anglais, et c'est pour ça qu'on nous oppose toujours ces deux modèles théoriques entre le modèle anglo-saxon et le modèle français ou latin de laïcité.
Alors je note en tout cas que vous parlez des laïcités dans le monde, oui. Pas forcément en France, parce qu'on sait aussi que c'est un débat hein, sur est-ce qu'il faut une laïcité point ou bien une laïcité adjectivée. Il y a beaucoup d'adjectifs qui peuvent lui être associés, mais c'est laïcité dans le monde. Philippe Reynaud, est-ce que d'abord c'est quelque chose, il y a un constat que vous partagez, ou bien est-ce que vous considéreriez que la laïcité a un pays et que ce pays c'est la France avant tout?
Disons que c'est pas la France seule, certainement, mais c'est quand même à l'origine une idée, me semble-t-il, qui est intrinsèquement liée à l'histoire de France. Bon, évidemment, on peut dire que dans les pays latins, on peut parler de laïcité, particulièrement dans les pays francophones. Et on peut dire évidemment qu'il y a un mot en turc pour dire laïcité, mais c'est un mot français qui est turquifié en l'occurrence. Donc ça doit correspondre quand même à quelque chose. Moi, il me semble que si on fait l'histoire de la formation de la sécularisation en Europe occidentale, où c'est le point de départ du processus, on a plusieurs voies, disons, qui se sont dégagées pour résoudre le problème des rapports, problème chrétien, à l'origine d'ailleurs des rapports entre le temporel et le spirituel. Il y a une voie française qui est assez différente de celle du Royaume-Uni et des États-Unis, et qui a fini par se traduire par une culture particulière. Bon, sur la laïcité, peut-être que le meilleur texte que je connais, c'est l'article laïcité du dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson, qui était le responsable de l'enseignement primaire au début de la Troisième République, et qui explique très bien que c'est la forme française d'un processus à valeur universelle, qui est le processus de sécularisation, forme dans lequel les exigences sont plus explicites, plus claires, et liées à une histoire particulière. Alors, là où l'histoire ressemble à la nôtre, c'est plus facile à faire comprendre.
Est-ce que l'historienne que vous êtes, Valentine Zuber, va puiser aux mêmes sources ?
Alors pas tout à fait. Alors moi je j'irai sur aussi les terrains de la science politique, peut-être, parce que en fait, qu'est-ce qui est compris sous le terme de laïcité? Quelle est la réalité sous le terme de la laïcité? Ben c'est un principe juridico-politique qui met ensemble plusieurs exigences, et c'est la manière dont ces exigences sont plus ou moins respectées ou plus ou moins mises en avant qui font les différentes formes de laïcité qu'on peut voir dans le monde. Alors, quelles sont ces exigences? La première, c'est la séparation entre les sphères temporelles et spirituelles, c'est-à-dire que le politique doit être indépendant du religieux, mais inversement, le religieux doit aussi être indépendant du politique. Alors, ça peut se faire de manière séparatiste, comme en France ou aux États-Unis ou encore dans d'autres pays. Ça peut se faire un petit peu autrement, par des reconnaissances, mais des reconnaissances toujours limitées. Deuxième principe, la neutralité religieuse de l'État et la non-discrimination des différents mouvements religieux présents dans la société. Là aussi, c'est un principe qui est partagé par de nombreux pays démocratiques. Troisième principe, l'égalité entre tous les citoyens et donc la nécessité de non-discrimination par l'État. Et évidemment, celui qui englobe le tout et qui est très important, même en France, puisqu'il est défini dans l'article 1er de la loi de 1905, la protection par l'État de la liberté de conscience et de conviction, de religion et de conviction de tous les citoyens.
Guillaume Goubert.
Valentine Zuber, est-ce que la République française, depuis 1905, a une volonté explicite à certains moments d'exporter notre modèle? Est-ce qu'on a essayé, par exemple, au moment de la décolonisation, ou je sais pas, au niveau européen, est-ce qu'il y a eu par moment une stratégie, j'allais dire, de soft power français pour essayer de convaincre d'autres pays d'adopter un modèle similaire?
Alors, C'est, votre question est tout à fait intéressante. Pour les, par exemple, les pays africains sous colonisation française, ils ont tous adopté, à la suite de la décolonisation, des constitutions où l'État est séparé des religions. Donc il y a une forte influence, évidemment, culturelle, même dans les États africains post-colonisation. Après, est-ce que la France a voulu exporter ? Ben, c'est à la mesure de ses moyens, mais elle n'a pas convaincu. Hein. Et en tout cas en Europe, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le modèle séparatiste français qui est majoritaire, bien au contraire.
Dans l'entretien que vous avez donné à La Croix, Philippe Reynaud, puisque j'ai oublié une fois de plus de mentionner le fait que aujourd'hui, il y a l'émission, bien sûr, et puis il y a le journal La Croix, avec déjà des réflexions sur le débat de ce soir, en votre compagnie, et Valentine Zuber et Philippe Reynaud. Mais, donc, dans cet entretien, vous répondez, Philippe Reynaud, que vous êtes convaincu que certains des principes sur lesquels s'appuie notre, on parle là donc la laïcité française, sont universellement valides et acceptables. Ça veut dire que ça, pour vous, c'est un modèle qui peut être très facilement, en tout cas, qui a vocation à être dupliqué du fait de son universalisme.
Non, parce que j'ai dit certains principes, qui sont d'ailleurs à peu près ce que vient de rappeler Valentine Zuber. Il se trouve simplement que la laïcité est souvent l'objet de critiques radicales. Il suffit de lire le New York Times, par exemple, pour voir qu'on nous explique que la France c'est comme la République iranienne à l'envers, etc. Enfin, c'est des choses qui sont assez coutumières. Également, certains organes de l'ONU se font écho de ces choses-là. Donc, il me semble qu'on peut répondre que il y a dans le noyau français de l'idée laïque des principes qui sont probablement universalisables.
Lesquels ne le seraient pas alors, si c'est certains principes ? Quel principe ne serait pas universalisable dans la laïcité française ?
Bien, je ne sais pas si c'est les principes qui ne sont pas universalisables, mais c'est les pratiques, c'est les solutions qui sont retenues, qui ne sont pas nécessairement universalisables. Il y a une histoire particulière de la République française qui n'a pas été confrontée au pluralisme des sectes protestantes, qui n'a pas eu d'église anglicane, qui n'a pas eu la tolérance style hollandais ou néerlandais, si vous préférez, et dans laquelle il y a eu un long affrontement qui commence schématiquement, philosophiquement, qui commence avant, mais qui politiquement commence avec la Révolution française, qui met plus d'un siècle à se régler, qui est un affrontement avec une religion qui a été longtemps dominante, qui est sous ce qu'on appelle l'Ancien Régime, était au cœur de l'ensemble des institutions. C'est ce que le regretté Émile Poulla appelait le régime de catholicité, qui a été mis à bas par la Révolution française, mais auquel on a mis plus d'un siècle à substituer quelque chose de viable. Alors dans ces choses-là, il y a des marques particulières qui ont été faites. Prenez par exemple quelque chose comme le régime scolaire français. S'il y a quelque chose où on considère que la laïcité est importante, c'est l'école. Bon, l'école laïque en France a été établie d'abord avant la loi de 1905. Je crois qu'il faut arrêter de considérer que la laïcité commence à la loi de 1905. Ça, c'est un contresens historique trop fréquent. Mais répéter un contresens, ça ne le rend pas vrai. Donc, la laïcité, si on y tient, ça commence avec les lois de Jules-Ferry. Bon, pardonnez-moi, en deux mots, l'école laïque aujourd'hui s'accommode du régime de l'enseignement privé sous contrat, dans lequel, même si la République ne salarie et ne reconnaît aucun culte, il y a une collaboration institutionnalisée entre l'Église catholique et la République qui a fini par s'établir.
Ce que d'ailleurs des pays peut-être considérés comme moins laïques auraient beaucoup plus de mal à accepter que
les États-Unis, par exemple.
L'Italie.
C'est une solution française. Bon, prenez des questions.
Alors attendez, si vous voulez bien, Philippe Reynaud, je reviens vers vous dans un instant, mais aussi pour qu'il y ait bien le dialogue. Valentine Zuber, je ne sais pas si vous souhaitiez réagir, mais sinon, moi j'avais quand même une question que je voulais vous poser à tous les deux pour revenir aussi un petit peu au Québec, mais c'est peut-être pas le seul exemple. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un pays qu'un État, une province comme le Québec aujourd'hui ressent la nécessité d'afficher et d'assumer ce terme de laïcité. La laïcité à la française, on a plutôt l'impression que ça a été un combat qu'il fallait mener. Est-ce que là, c'est un combat ou est-ce que ça n'est pas aussi une laïcité plus identitaire, c'est-à-dire une façon de se protéger contre ce qui serait une forme d'agression extérieure, alors en l'occurrence peut-être au Québec, les immigrés, puisque, je le rappelle, la loi a été prise en même temps qu'une autre loi qui régule l'immigration.
Valentine Zuber. Oui, ce qui me semble d'ailleurs un très mauvais signe, c'est d'assimiler laïcité et immigration, et on a un peu trop tendance à le faire aussi dans nos espaces, et d'ailleurs c'est un peu partout ailleurs, c'est face à cette visibilité religieuse musulmane, il ne faut pas s'en cacher, si je puis dire, cette visibilité religieuse musulmane qui pose problème aux États sécularisés, pluralistes et qui ne sont plus habitués à cette ferveur ou cette apparence de ferveur qui se déploie ainsi dans les rues à travers le vêtement particulier, en particulier celui des femmes via le voile ou bien dans des manifestations dans l'espace public comme des prières de rue ou des choses comme ça.
Mais vous y voyez quoi? Un dévoiement de la laïcité? Le fait que ce terme-là, en tout cas, soit utilisé officiellement à ce moment-là?
Oui, je pense qu'en tout cas, ça restreint beaucoup l'ampleur et l'universalité de la laïcité, puisque, et ça se voit très clairement à travers la loi québécoise, et je le disais aussi à travers la loi de la République de Genève qui porte le même nom et qui est passée l'année dernière très facilement, qui a été votée très facilement, ce qui obsède les politiques, c'est le signe, religieux, et c'est l'interdiction du signe, et aussi c'est l'interdiction du voilement du visage. Donc on voit très bien que c'est la religion musulmane qui est spécifiquement visée.
Guillaume Goubert.
Philippe Reynaud, dans le cas du Québec, quelle est dans cette prédisposition à la laïcité, qu'est-ce qui joue le rôle le plus important? Est-ce que c'est le souvenir d'un poids très très lourd de l'Église catholique pendant très longtemps, ou est-ce que c'est la relation au reste du Canada qui anglophone, qui se veut très très multiculturel et très tolérant, et la laïcité serait une manière d'affirmer une différence québécoise?
Oui, je pense que c'est les deux à la fois, probablement. C'est-à-dire que Le Québec, pendant longtemps, on a appelé ça le Canada français. Quand Tocqueville, d'ailleurs, parle du Canada, ce qu'il appelle les Canadiens, c'est les Québécois, et ce que nous appelons les Canadiens, ils les appellent les Anglais. C'est assez significatif. Bon, pendant longtemps, le Canada a été français, jusqu'à la fin funeste de la guerre de 7 ans. Mais le Canada a été... a été l'objet d'une politique de peuplement strictement opposée à ce que faisaient les Anglais. Les Anglais envoyaient dans le continent américain les dissenters pour s'en débarrasser. Richelieu et Louis XIV envoyaient des bons catholiques pour installer la religion, la vraie religion au Québec, avec des qualités et des défauts comme d'habitude. Bon, ce qui s'est passé après, c'est que une fois le Canada devenu, devenu britannique, l'Église québécoise a été le vecteur d'une identité quasi nationale importante. C'est assez comparable, me semble-t-il, à ce qui se passe en Pologne ou en Irlande. Et c'est quelque chose qui a tenu la société québécoise pendant deux siècles, mais qui l'a tenu, il faut bien le dire, de manière un petit peu rigide. Et qui, c'est un des grands mystères quand même de l'histoire religieuse du XXe siècle, c'est l'effondrement du catholicisme québécois qui s'est produit en quelques mois. C'est quelque chose dont on a des témoignages très amusants dans les films de Denis Arcand là-dessus. Alors, il y a probablement, me semble-t-il, dans la culture québécoise, le souvenir d'une expérience des relations entre religion et politique qui n'est pas de même nature que celui du monde anglophone, que celle du monde anglophone, et dans laquelle un certain imaginaire français de la laïcité joue probablement un certain rôle. Alors, j'ajoute pour terminer que le fait que au Québec comme ailleurs tout ça soit posé par l'émergence de la religion, les questions soient vivées par l'émergence de la religion musulmane, dans le monde occidental. Pour ma part, je vois rien de choquant là-dedans, ni d'anormal. La religion musulmane est nouvelle, elle pose des problèmes nouveaux, elle a une...
Enfin, elle est nouvelle peut-être en partie au Québec.
Oui, bon...
Ouais. Ce que je veux dire, la religion musulmane n'est pas nouvelle en soi.
Bah, elle est nouvelle de géographiquement, oui, ça...
C'était juste pour moi, que ce soit bien clair.
Elle est nouvelle dans le monde occidental, enfin, avec la dimension qu'elle a prise aujourd'hui, et elle a une histoire théologico-politique différente du christianisme, ça va poser des problèmes pendant un certain temps, et je ne vois pas, si vous voulez, de la même manière que la... Là, je ne suis pas d'accord avec Valentine Zuber quand elle dit que la loi de 1905 n'est pas dirigée contre l'Église catholique parce qu'elle ne fait pas de discrimination, bien entendu. Mais enfin, l'adversaire réel à l'époque, c'était l'Église catholique, il n'y en avait pas d'autre.
Alors voyons justement ce que dit Valentine Zuber.
C'est peut-être là où nos cultures diffèrent, parce que je reviens un peu sur ce que vous avez dit sur cet affrontement qui est évidemment impossible à nier entre l'État et l'Église catholique. Et après, c'est un affrontement mimétique entre deux institutions rivales et dont l'une va prendre la main sur l'autre. Mais tout ça n'est possible. Pourquoi il y a une histoire de la laïcité en France? C'est à cause du combat des philosophes pour défendre les minorités persécutées, les protestants, l'affaire Calas, l'affaire Sirvaine, et des choses comme ça. Et c'est pour ça que dès la Révolution française, on a cet article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui ravale la religion à n'être plus qu'une opinion. Une opinion même religieuse est dans l'article 10 et qui présente toutes les garanties de la liberté de religion et de conviction en France de manière très précoce. Et donc c'est l'un des premiers actes de la laïcité, du processus de laïcisation français. Ce processus de laïcisation, d'individualisation, d'émancipation de l'État vis-à-vis à la fois des normes théologiques et des normes sociales religieuses, ça s'est fait de manière extrêmement progressive et en particulier si on parle de normes morales, etc. Un républicain de la fin du 19e siècle partage à peu ou prou la même morale sexuelle, par exemple, ou sur le rôle des femmes, qu'un catholique de la même époque. Donc on est là dans une autre forme de laïcité, et il faut bien comprendre que la laïcité n'est jamais un acquis, mais un processus et le résultat d'un processus politique.
Alors je rappelle la question que nous posons ce soir. La laïcité est-elle exportable? Oui, allez-y, Philippe Reynaud.
Je ne vois pas votre point, parce que tout ce que vous avez dit, je suis parfaitement d'accord.
Et vous voyez que les désaccords terminent sur des accords, c'est ce qu'on aime bien justement
dans
cette émission.
Non, parce que je continue à penser que le problème posé par l'islam est tout à fait sérieux et à ne rien trouver de choquant à ce qu'il soit au centre d'un certain nombre de discussions actuelles sur la laïcité.
Alors j'étais en train de redonner la question que nous posons ce soir en compagnie, vous l'entendez, donc Philippe Reynaud, qui est politiste, et Valentine Zuber, qui est historienne, et en partenariat avec le journal La Croix et son directeur Guillaume Goubert. Retournons un instant au Canada pour voir aussi en quoi ça provoque des débats et sur quel registre. Alors il y a cette question de l'immigration, mais il y en a aussi une autre qui est la liberté de conscience. Il y a un certain nombre d'hommes politiques canadiens, des premiers ministres d'État, notamment celui de l'Alberta, qui dit ceci par rapport au vote de cette loi au Québec. Il dit « Nous croyons en la liberté de conscience et que cette liberté doit être protégée, par exemple pour les employés de l'État qui portent des signes religieux ostentatoires. » Ça veut dire que pour une partie des Canadiens, la laïcité est considérée comme quelque chose qui restreint la liberté de conscience. Est-ce que ça veut dire pour vous, Philippe Reynaud, et même question à Valentine Zuber, que les Canadiens n'ont absolument rien compris à ce qu'était la laïcité, qu'il faudrait leur...
Ça veut dire simplement que les Canadiens reprennent, un certain nombre de Canadiens reprennent à leur compte une fable américaine qui est largement relayée dans le monde entier, qui est en partie relayée par une certaine historiographie protestante, qui oppose cette idée que dans le monde protestant on aurait eu l'émergence de la liberté de conscience à l'opposition de l'étatisme français. C'est essentiellement une fable, parce que la liberté de conscience dans le monde anglo-saxon s'est organisée autour d'une conception de la tolérance dans laquelle, par exemple, les catholiques et les athées étaient exclu. Il suffit de lire le grand Locke là-dessus pour le voir. C'est une opposition qui est parfaitement artificielle. Rien ne prouve, si vous voulez, que la liberté de conscience implique pour quelqu'un qui a des convictions religieuses le fait de devoir les proclamer quand il est fonctionnaire. Ça n'a rien à voir avec la liberté de conscience.
C'est une fable pour vous aussi, Valentine Zuber?
Non, pas vraiment, mais moi je reviendrai sur le contenu même de cette loi 21, qui ne s'appelle plus loi 21, mais loi sur la laïcité de l'État. Le contenu réaffirme les grandes libertés individuelles, la séparation, la neutralité religieuse de l'État, la liberté de conscience, etc. Mais elle l'enfreint, à mon sens, la laïcité, en donnant une définition du signe religieux, alors que l'État laïque n'est pas censé connaître le religieux. Donc il n'a pas à donner de signification, de définition du signe religieux. Et donc il y a une espèce de double discours, et il se sert de cette signification du signe religieux pour l'interdire. Et pour l'interdire, non seulement, comme nous avons l'habitude en France, aux représentants de l'État, c'est-à-dire aux fonctionnaires qui représentent l'État devant les citoyens, mais pour l'interdire aussi aux hommes politiques et particulièrement aux parlementaires. Hein. Ce qui est aussi une dérive, à mon avis, de la loi genevoise, c'est-à-dire d'imposer une neutralité à des gens qui ont des convictions politiques et qui donc, évidemment, ne sont pas astreints, à mon avis, à la neutralité, et heureusement. Donc il y a des glissements comme ça dont je comprends qu'ils peuvent choquer le Canada non québécois.
Guillaume Goubert.
Effectivement, une bonne partie de ces débats naissent de l'apparition de la pluralité religieuse. Alors, on parle beaucoup de l'islam, mais il n'y a pas forcément que l'islam. Enfin, on parlait des sikhs ou je ne sais pas. Est-ce que, en dehors de la France, où effectivement ce débat est posé, il y a eu encore un rapport parlementaire qui est paru cette semaine sur la question de la radicalisation dans les services publics. Vous citez, Valentine Zuber, les cas du Québec et de Genève. Est-ce qu'il y a encore d'autres pays où la question des rapports entre religion et vie publique est posé, pour prendre une expression très, très religieuse, très catholique, à nouveau frais du fait de l'apparition de la pluralité religieuse.
Je pense que le problème de la laïcité ne devient qu'une question que parce qu'il y a pluralité religieuse. S'il n'y a pas pluralité religieuse, il n'y a pas de laïcité. Il y a une théocratie ou il y a une domination de l'Église par l'État, ou peut-être le contraire, c'est encore que. Bon, on aurait des exemples dans une histoire très lointaine. Mais la laïcité suppose qu'il y ait débat dans la société et qu'il y ait friction dans la société. Sinon, on ne demanderait pas cette neutralité, ce devoir de réserve des fonctionnaires comme nous le vivons actuellement. Et ce devoir de réserve est une marque de respect et de confiance dans les sentiments et les convictions des citoyens. Donc la laïcité qui n'est pas obsédée par le signe religieux, qui n'est pas obsédée par l'autre religieux, comme l'islam en particulier, une laïcité respectueuse des libertés individuelles est possible et est souhaitable, à mon avis.
Philippe Reynaud.
Oui, un mot d'abord sur cette question des signes religieux. Vous mettez le doigt, Valentine Zuber, sur une vraie difficulté, qui est le fait que l'État laïque ne peut pas être théologien. Ça s'est entendu. Cela dit, le fait de ne pas être théologien ne l'oblige pas à être ignorant. Et en l'occurrence, par exemple, les hommes de la Troisième République connaissaient très bien leur adversaire, qui était le catholicisme, et ils avaient inventé une distinction très très utile, qui était de dire qu'on ne combattait pas le catholicisme, on combattait le cléricalisme. Bon, si on lit par exemple Anatole France, qui est un des grands théoriciens là-dessus, on comprend très bien que les gens savaient très bien que derrière le cléricalisme, il y avait l'interprétation dominante de la religion catholique depuis Pie IX, depuis le syllabus, etc. Alors, de la même manière, quand on combat l'islamisme, on sait bien qu'on rencontre des problèmes qui touchent un peu à l'islam. Alors tout ça pour dire...
C'est sans doute d'ailleurs assez souvent une façon de de s'opposer à l'islam que de le faire sous couvert de lutte contre l'islam.
Oui, mais ça me paraît pour dire tout aussi légitime que le fait de combattre le catholicisme en appelant ça cléricalisme. C'est la décence du langage politique.
Oui, mais je pense que le cléricalisme désigne plus précisément les tentatives théologico-politiques de l'Église catholique. Et que c'est ça qui est combattu.
De la même manière que l'islamisme désigne les tentatives de l'islam politique.
Oui, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais je pense que les hommes de la Troisième République, et en particulier Aristide Briand, qui est l'auteur principal de la loi de 1905, ne visaient pas le catholicisme, bien au contraire. Ils visaient le cléricalisme, c'est-à-dire les formes politiques du religieux. Et c'est ça qu'ils combattaient. Et si on en revient au signe religieux, le même Aristide Briand, parce qu'on lui demandait, mais il faudrait interdire les soutanes parce que c'est le signe du cléricalisme dans la rue. Et on a des débats actuellement sur le vêtement religieux dans l'espace public et tout particulièrement dans cette loi sur la laïcité du Québec. Eh bien, il a dit on va se couvrir à la fois de ridicule et surtout on va pas y arriver parce que les curés auront une imagination débordante pour imaginer une autre manière de s'habiller qui ne tombera pas sous le coup de la loi. Donc c'est une entreprise désespérée et à la limite du ridicule. Et vous voyez bien qu'elle pose problème encore aujourd'hui parce que par la loi du 15 mars 2004 qui interdit le signe religieux dans les écoles publiques du secondaire, eh bien on a interdit le voile, on y est finalement arrivé, ça a pacifié les choses très bien. On a donc le hijab. Et qu'est-ce qu'on se trouve maintenant face à des jeunes filles qui inventent une jupe longue, un vêtement trop noir, un bandeau de telle ou telle forme. Donc le signe religieux, il évolue. Et donc c'est très difficile de légiférer là-dessus.
Oui, mais si vous me permettez, ce que je voulais dire, c'est que le fait que l'État ne peut pas à un certain moment dire ceci est religieux, ceci ne l'est pas. Par exemple, l'État n'est pas théologien, mais quand on a fait enlever les crucifix des écoles, c'est parce qu'on considérait que le crucifix n'était pas une décoration anodine. Il y a des choses qui ont un sens religieux intrinsèque et l'État a quand même la possibilité de le voir. De certains cas. Et comme disait Peggy, le problème parfois c'est simplement de voir ce qu'on voit. Alors on peut discuter à l'infini, si vous voulez, sur ce qui est opportun et ce qui ne l'est pas. Alors ce que je dirais d'ailleurs à propos de ce qui se passe au Québec, c'est que le côté, à mon avis, un peu exagéré, effectivement, de cette loi sur l'interdiction faite aux représentants d'arborer des signes religieux, c'est le signe à la fois que l'expérience québécoise n'est pas tout à fait la même que celle de la France, parce que la France a toujours eu le chanoine Kyr et un certain nombre de personnages de ce genre-là dans l'hémicycle, mais que, d'une certaine manière, c'est bien, si vous voulez, s'il y a une pathologie, d'ailleurs pas très grave, c'est une pathologie qui est liée à une certaine culture française, à une certaine culture d'espace français, si vous voulez. C'est effectivement des choses qu'on pense pas à faire dans le monde anglo-saxon. C'est la preuve qu'il y a une petite singularité, disons, de l'ère culturelle francophone sur ces questions.
Est-ce qu'on peut dire, Valentine Zuber et Philippe Reynaud, que la laïcité est une des conditions de la démocratie et que, par conséquent, ça peut être aussi un système de valeurs qui peut être, séduisant, qui peut être, dans des pays qui ne sont pas démocratiques, en tout cas, qui peut servir peut-être de socle à des actions, je sais pas, de la société civile, justement, pour aller vers davantage de démocratie, c'est-à-dire se servir de la laïcité pour un projet démocratique.
Alors moi, je suis intimement persuadée qu'un État démocratique qui n'est pas laïque n'est pas démocratique. Mais après, il faut s'entendre sous ce qu'on met dans les pratiques laïques. Et là, c'est vraiment suivant les pays. Par exemple, au Québec ou au Canada ou en Angleterre, vous pouvez tout à fait être... Enfin, vous pouviez, puisque maintenant ça va changer au Québec, mais vous pouviez être fonctionnaire de police et porter un turban cirque ou un voile dit islamique de la couleur de l'uniforme. Ça n'était pas un accommodement raisonnable, c'était prévu par la liberté de religion, de conscience et de conviction des chartes des droits et liberté. Mais c'est pas tellement sur ces petites manières d'envisager la laïcité. J'en reviens aux grands principes qui sont la neutralité religieuse de l'État, la garantie de la liberté de conscience et de manifestation du culte. Parce que la liberté de conscience toute seule ça n'est pas une liberté. Hein. La liberté de conscience doit, en tout cas gérée par l'État, doit s'accompagner de la liberté de religion et de manifestation de ses convictions religieuses. Et d'ailleurs, je relève qu'en France, on n'est pas à l'abri de dérives laïcistes parfois. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le journal La Vie a fait toute une étude sur le service national universel où il montre que on a privilégié la liberté de conscience, sans les donner les moyens à ces jeunes gens d'exercer leur liberté de culte. Et en ce sens, il y a un vrai problème parfois en France de comprendre toutes les exigences de la liberté de religion et de conviction.
Il m'a semblé vous entendre dire non, Philippe Reynaud, à cette proposition, la laïcité comme condition de la démocratie. Mais peut-être que j'ai mal entendu.
Tout dépend de ce qu'on entend par laïcité. Mais
et par démocratie aussi.
Non. C'est-à-dire, moi, je m'en tiens à l'idée, si vous voulez, que la laïcité, c'est la... Il y a une partie singulière, c'est une forme particulière qu'a pris le processus de sécularisation en France. Alors, ce que je dirais, c'est que, dans certains cas, il peut arriver que la sécularisation ne soit pas suffisante et qu'on puisse avoir besoin, disons, de choses un peu énergiques, inspirées de la laïcité française. Ça peut arriver dans certains cas. Je pense, par exemple, que effectivement, là, je ne serais probablement pas en accord avec mes interlocuteurs de ce soir, mais je pense que ce qui se passe au Québec montre que dans certaines conditions, des pratiques qui viennent d'une certaine version française de la laïcité peuvent être utiles pour consolider la démocratie. Mais ces pratiques ne sont pas indispensables partout, pas à tous les moments. Il y a une variation quand même très considérable des... Par exemple, moi, je ne vois aucun inconvénient, si vous voulez, à ce que les Italiens aient maintenu les crucifix dans les écoles. Et je trouve que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, jusqu'ici, est assez sage sur ces questions. Il y a des solutions très diverses. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que il y a parfois en France une certaine idée de la laïcité qui est un peu aberrante, qui a été d'ailleurs diffusé après on parlait tout à l'heure de la décolonisation. C'est ce qui a conduit un certain nombre de Français à admirer les régimes de Kemal Atatürk et de Nasser en considérant que c'était des régimes laïcs. Bon, c'est des régimes laïcs dans lesquels il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y a pas la moindre liberté de conscience et dans laquelle il y a simplement un contrôle de la religion musulmane par l'État. Par exemple, ça n'a rien à voir avec la démocratie.
Une dernière question.
Ça n'a rien à voir avec la laïcité non plus. Et c'est pas parce qu'on s'appelle République démocratique allemande qu'on est une République démocratique. Donc oui, je crois que c'est une question un peu de jeu sur les mots.
Bah, oui, mais comme vous avez dit vous-même que le terme laïque existait en turc, il existe pour désigner ça.
Oui, parce qu'il se traduit, mais ça ne veut pas dire qu'il recouvre les mêmes réalités.
Une dernière question, Guillaume Goubert, qui suppose des réponses courtes, parce qu'on est presque
à la fin. Oui, je ne sais pas, est-ce que pour l'un et l'autre, est-ce qu'il y aurait un pays qui réussirait particulièrement bien à faire cohabiter les critères de la laïcité tels qu'on entend en France, mais d'une manière peut-être plus calme, plus posée, Philippe Reynaud. Est-ce que vous auriez un pays de référence en la matière ?
Est-ce qu'il laisse à Valentine Zuber le temps de la réflexion ?
Non, je crois que c'est pas dans ces termes-là qu'il faut poser les questions. Pardonnez-moi, mais je crois qu'on on cherche pas un modèle comme autrefois on cherchait un pays socialiste idéal, si vous voulez. On n'est pas en quête de la terre idéale, du modèle de la laïcité incarnée. Je pense simplement que il y a un certain nombre de choses dans les traditions françaises qui sont dignes d'être conservées et qui sont parfois d'ailleurs imitées ailleurs. C'est tout ce que
pas de modèle ailleurs, mais enfin le modèle français quand même, il vous plaît bien, hein, manifestement, Philippe Reynaud.
Bon, il est pas si mal, oui.
Valentine Zuber.
Non, mais moi aussi je suis française et je suis attachée à ce modèle. Mais il faut essayer de comprendre aussi que face à des défis similaires, on n'a pas forcément les mêmes pratiques et les mêmes cultures juridico-politiques. Et même si on les taxe, elles aussi, de laïcité. Donc j'appellerai à pas mal de discernement. La laïcité n'est pas une valeur. La laïcité est un principe juridico-politique et il est susceptible de prendre plusieurs formes.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Valentine Zuber, tiens, je renvoie à un ouvrage que j'ai pas cité tout à l'heure, il y en a plusieurs, La laïcité en débat au-delà des idées reçues au Cavalier Bleu, c'était en 2017, puis prochain donc, qui sort en septembre sur la géopolitique des religions. Merci Philippe Reynaud, Laïcité, histoire d'une singularité française, publié cette année chez Gallimard. Et un grand merci à Guillaume Goubert du journal La Croix de nous avoir accompagnés donc depuis trois saisons dans ces partenariats du dernier jeudi du mois. C'était peut-être pas toujours le dernier jeudi du mois au début. Enfin, en tout cas, c'était un vrai plaisir voilà que de co-animer régulièrement cette émission en votre compagnie. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richet, Jordan Joseph, Virginie Ledioux et Antoine Dulster. Émission réalisée par Peyre Le Gras avec à la prise de son Alexandre Dang. Dans trois minutes, la dispute, Arnaud Laporte.
Une dispute littérature ce soir, vous le savez déjà. Mais moi, ce que je ne sais pas, c'est ce qui va se passer demain pour la dernière du Grain à Moudre.
Alors, c'est la dernière du Grain à Moudre. Sachant, alors, je précise quand même, il y aura du Grain à Moudre d'été avec Antoine Janton et Julie Gacon. Mais après, ce sera vraiment fini. En ce qui me concerne, et en ce qui concerne l'équipe du Grain, c'est bien la dernière demain, au Bel Air, le bar de Radio France. Est-ce que ce monde est sérieux? C'est la question que nous poserons pour cet ultime rendez-vous. C'est pas impossible.